sauvage. Cette pandémie n'a pas de frontières. En d'autres termes, l'avènement du Covid-19, le cinquième cavalier qui s'est ajouté aux quatre autres problématiques que le monde affrontait, notamment les tensions géostratégiques, la crise climatique, les méfiances ici et là, mais aussi la crise du monde numérique, comme l'a si bien dit le secrétaire général Antonio Guterres, eh bien, la pandémie est venue s'ajouter et a montré que notre monde était fragile. La pandémie n'ayant pas de frontières et le virus pouvant circuler très aisément, il faut donc comprendre que soit nous périssons tous, soit nous nous sauvons tous de cette pandémie qui est en train de connaître, ici et là, une deuxième vague. Il n'est donc pas question aujourd'hui de renforcer uniquement les intérêts nationaux ou géographiquement limités, car une solution d'un problème dans une région du monde ne peut absolument pas tenir longtemps si une autre partie du monde demeure très affectée. Donc, la pandémie est venue souligner davantage la fragilité de notre monde et la nécessité de l'interconnexion. Donc, c'est dans l'unité de l'action et dans l'application de cette action sur le terrain, sans respect des frontières, que nous pouvons réussir face au coronavirus.
Alors, Dr Tchenkou, en tant que médecin, comment ce manque de collaboration, pour ne pas dire cette tension entre des pays comme entre pays des États-Unis et la Chine, peut affecter le travail sur le terrain?
Vous savez qu'il y a un président anglais qui disait que les pays n'ont pas d'amis perpétuels ou d'ennemis éternels. Ce qui est important et ce qui est éternel et perpétuel, c'est l'intérêt des pays. Les pays vont collaborer avec d'autres pays quand c'est nécessaire. Mais quand il faut défendre l'intérêt national, ils se renferment. C'est ce qu'on voit avec ce virus qui a commencé en Chine. Lorsque la Chine avait besoin des autres pays pour l'aider au début, ils ont beaucoup demandé de l'aide. Mais lorsqu'ils ont commencé à résoudre leurs problèmes, ils n'ont pas assisté l'OMS, ils n'ont pas assisté l'Europe, ils n'ont pas assisté les États-Unis avec les informations qu'ils avaient déjà acquises. Je veux dire que quoi? C'est lorsque les pays sont en position déficitaire qu'ils cherchent l'aide internationale. Lorsqu'ils sentent qu'ils sont autosuffisants, ils se renferment. Et je pleure beaucoup pour notre continent, l'Afrique, parce que l'Afrique continue à penser qu'ils ont des amis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et tant que nous ne mettons pas en place les structures nécessaires en Afrique, je veux parler des structures humaines, je veux parler des ressources, je veux parler d'infrastructures, je veux parler d'une philosophie de conquête, nous serons toujours en demandeur quand on parle avec les autres. Quand vous êtes en position de demandeur, on vous impose ce qu'il faut faire.
D'accord, nous aurons l'occasion de revenir justement sur l'impact en Afrique dans tout cela, mais M. Kolo, l'une des conséquences de la pandémie est qu'elle éclipse d'autres fléaux hein, comme les conflits, l'insécurité, la famine. Comment est-ce que les Nations Unies comptent s'y prendre pour éviter que ce nouveau coronavirus n'empire la situation dans des pays qui font face déjà à ce genre de crise? Beaucoup de pays africains impliquent dans cette catégorie. Notamment.
Eh bien, les Nations Unies doivent simplement continuer à mieux faire ce que les Nations Unies essayent de faire depuis leur création, c'est-à-dire mettre véritablement en route et le faire efficacement les principes d'inclusivité, par exemple. Essayer de tout faire pour que le déploiement de l'aide humanitaire soit bien pensé et que tous les États participent avec un échange d'informations. En d'autres termes, si cette pandémie est venue souligner la fragilité du monde, elle est aussi venue rappeler que les préceptes sur lesquels les Nations Unies travaillent et les bases mêmes de notre village planétaire sont encore plus utiles qu'ils ne l'étaient au moment où, il y a 75 ans, les Nations Unies avaient été fondées. Il faut simplement reconnaître maintenant que les Nations Unies aujourd'hui n'ont plus le visage, et le monde n'a certainement pas le visage des Nations Unies au temps de la création de l'institution il y a 75 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les réformes dont on parle depuis très longtemps sont devenues non seulement nécessaires, mais très urgentes, parce que les crises d'aujourd'hui, surtout une crise globale comme cette pandémie, le Covid-19, montrent que le monde, en réalité, doit être reflété au sein des Nations Unies pour que notre action soit conséquente. Les réformes, comme celle du Conseil de sécurité ou les réformes en profondeur des Nations Unies, viennent donc frapper à la porte des nations. Si les Nations Unies n'ont pas cette capacité de se réformer, eh bien leur capacité de gérer ces crises va être amoindrie. Donc une sorte de consolation pour nous, c'est de dire que cette pandémie véritablement est venue souligner non seulement la fragilité du monde, mais aussi l'insuffisance des réformes apportées jusqu'ici. Mmh. Et il faut croire que les États et les dirigeants du monde vont se réveiller véritablement, puisque nous voyons aujourd'hui une Assemblée générale, un débat général à New York qui se passe comme jamais ça n'avait été.
Les c'est une première, ouais.
Et tout cela se passe virtuellement. C'est un monde nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant.
Alors, oui, effectivement. Et docteur Tchenko, pour revenir un peu à la situation dans nos pays en Afrique, ces pays qui manquent d'infrastructures sanitaires, mais qui font face aussi à d'autres urgences sanitaires. On a parlé plutôt de l'insécurité haute, mais là, il y a aussi d'autres urgences sanitaires. Comment gérer cette question qui pousse même certains à éviter d'aller à l'hôpital? On a vu récemment en Afrique du Sud une étude qui montre que beaucoup de personnes sont mortes parce que n'ayant pas le traitement adéquat, et ils ne sont pas forcément morts du coronavirus. Comment gérer tout cela? C'est assez compliqué pour ces pays, non?
C'est très compliqué, et encore plus compliqué en Afrique subsaharienne. Une Afrique subsaharienne qui, n'est-ce pas, prend ses devises et sa monnaie et met dans un autre continent. Je veux parler des 14 ou 16 pays africains francophones qui ont tous leurs devises en France.
Alors, vous pensez que c'est un problème plus de moyens d'indépendance ou peut-être il y a une politique de santé?
D'une part, ils n'ont pas les moyens. D'autre part, il y a une crise économique sans précédent qui va suivre après ce coronavirus, parce que certains pays ont arrêté de travailler pendant longtemps. Ça veut dire que nous qui sommes pauvres, et souvent on demande de l'aide venant des pays occidentaux, qui eux-mêmes deviendront pauvres dans quelques 3 à 4 mois parce qu'ils n'ont pas travaillé, les instituts ont fermé. La pauvreté est en train d'arriver dans les prochains années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on sait qu'elle arrive? Ça, c'est le moment de mettre en place des infrastructures pour protéger la population. Parce que je vous dis, il y a une baisse de productivité dans le monde à cause du coronavirus. Les industries ont fermé. Ça veut dire qu'on n'a pas généré les ressources. Ça veut dire que les ressources qu'on va alloquer au niveau sanitaire pour les pays seront diminuées. Il est temps que nous mettons en place les mesures de prévention primaire. Qui veut dire que quoi? On empêche la maladie d'atteindre les populations. Ce virus est essentiellement une maladie des villes en Afrique et surtout des villes aéroportières. Il faudrait des cordons sanitaires pour empêcher que cette population se brasse. La deuxième chose, c'est le port des masques. Il ne faut pas arrêter de porter les masques parce que, par exemple, au Cameroun, on a vu des résultats excellents pendant 2 à 3 mois. Mais après ça, on a demandé de diminuer les mesures qu'on avait pris et on a vu une recrudescence. Je veux dire qu'il faut être vigilant. L'Afrique n'a pas été aussi frappée que l'Europe, mais la pandémie persiste et il y a une crise économique qui va en suivre.
D'accord. Monsieur Kolo, le docteur Tchenko évoque des questions qui sont pour beaucoup, en tout cas, de la prérogative des États eux-mêmes. Mais qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire dans ce sens aussi pour aider ces États à consolider, disons, leur structure sanitaire et tout cela?
Il faut vraiment souligner ici que le docteur Tsienko a parfaitement raison et que la notion de prévention est absolument importante et capitale. Et il faut véritablement garder le cap, comme le docteur Tsienko l'a si bien expliqué. Je dois simplement dire que les Nations Unies ont fait beaucoup et continuent à faire beaucoup pour aider l'Afrique et les régions un peu moins développées que les autres. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a lancé des appels et a continué à tenir un discours de la vérité. Et ça, c'est à saluer devant une crise où il est effectivement facile de tomber dans le populisme. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est dirigée par un Africain, le docteur Tedros, a aussi, je dirais, tenu le cap. Ce n'est pas facile dans le contexte justement, international.
Justement, et, l'OMS, qui est un organisme des Nations Unies, est critiqué quand même, surtout par l'administration américaine. Comment l'ONU est-ce qu'entend préserver cette collaboration internationale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans ce contexte où l'organisme principal est sous le feu des, disons, attire un peu l'attention?
J'ai véritablement beaucoup de respect pour mes collègues de l'OMS qui font un travail excellent et parfois ingrat. Ils ont des spécialistes de très haute renommée. Il n'y a pas seulement des Africains, mais il y a aussi des internationaux. Il y a le docteur Tedros lui-même, il y a le docteur David Nabarro, il y en a d'autres. Il faut dire ici que l'OMS a beaucoup aidé et continue à aider les pays africains dans toutes sortes de programmes. Et il ne faut pas lâcher cela. Il ne faut pas être, je dirais, pris de grippe par les questions internationales ou les bisbilles ou les disputes ou les controverses géostratégiques. Ça a toujours eu lieu et ça aura toujours lieu. Pour le moment, la pandémie a frappé à notre porte. J'aimerais simplement dire que dans le cas d'espèce, l'Afrique a tout de même réussi à gérer mieux que d'autres pays beaucoup plus équipés cette pandémie. Les États-Unis, par exemple, rassemblent aujourd'hui plus de 200 000 morts. Cela fait plus de morts que toute l'Asie et l'Afrique rassemblées. Donc, il faut mettre les choses dans leur perspective, mais comme l'a dit le docteur Tsienko, ce serait véritablement utile de ne pas baisser la garde et de continuer à faire ce qu'il faut faire. Porter les masques, appliquer les mesures barrières. Je dois ajouter ici que par rapport à la communauté internationale, la pharmacopée africaine peut être d'une très grande aide. Il y a beaucoup de gens dans nos villes, dans nos villages, dans nos contrées qui connaissent tel produit ou tel autre. Il faudrait maintenant qu'il y ait un effort collectif, un effort planétaire pour voir comment cette pharmacopée, en commençant par les efforts africains eux-mêmes, peut être, n'est-ce pas, mise à bonne production, mieux comprise, mieux distribuée, mieux calibrée, pour qu'elle vienne contribuer à toutes sortes de solutions par rapport à cette pandémie et à bien d'autres. Il ne faut pas oublier que l'Afrique a vécu beaucoup de pandémies. Ce n'est pas la première, mais nous avons eu en Afrique un peu l'habitude de gérer ces choses et je dois dire que l'Afrique a ici montré une sorte de visage un peu plus positif, mais nous ne devons absolument pas baisser la garde.
D'accord. Docteur Tsienko, je voudrais avoir votre réaction sur ces deux aspects qu'évoquait Jean-Victor Collot. L'OMS pouvait-elle faire mieux et répondre également sur cette question de la pharmacopée africaine?
D'abord, l'OMS est une organisation très solide. La structure est solide et les fonctions sont très solides. Et l'impact de l'OMS dans la lutte contre les maladies infectieuses, dans le programme élargi de vaccination, dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle ne peut pas être diminué. L'OMS a fait une ou deux petites erreurs au début de la pandémie. Numéro un, quand ils ont dit que ce n'était pas transmis en l'air, airborne. Et la deuxième, ils disaient que le masque doit être restreint au personnel médical. Ça, c'est des petites erreurs. Mais dans l'ensemble, l'impact de l'OMS sur la santé mondiale n'est pas discutable.
D'accord. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir quelqu'un de l'OMS qu'on avait invité et malheureusement qui a dû se déplacer. Mais allez-y. Sur la question de la pharmacopée africaine.
Oui, et là, l'Afrique a beaucoup à proposer au monde. Ce n'est pas seulement au niveau de la pharmacopée, c'est au niveau de la culture, c'est au niveau de l'intellect, des ressources humaines. Ce qui nous manque en Afrique, c'est ces leaders qui peuvent nous donner une orientation spécifique pour que d'une part nous devenons autonomes. Ça veut dire que quoi? Que nous devons produire et fabriquer tout ce que nous avons besoin. Même ces grandes organisations internationales, qui sont à la merci de leurs bailleurs, qui servent leurs bailleurs en premier lieu, et puis l'Afrique en dernier lieu, parce que nous n'avons pas les moyens de faire pression, parce que nous ne contribuons pas assez comme les autres. Je vous donne l'exemple. Je parlais avec un directeur de la Banque mondiale qui me dit que le premier rôle de la Banque mondiale, c'est lutter contre la pauvreté. Alors j'ai failli tomber de vous. Parce que d'abord, la Banque mondiale est à Washington. Seulement le bâtiment de la Banque mondiale peut nourrir le cas de l'Afrique. Si on voulait lutter contre la pauvreté, on ne va pas mettre l'organisation à Washington. Ça coûte trop cher. Alors je vous dis, en premier lieu, ces organismes internationaux se servent d'abord et puis nous servent. Mais si nous travaillons fort, nous développons notre pays, notre continent, et nous devenons une force importante, on n'aura plus de voix.
D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je lis quand même deux réactions de téléspectateurs qu'ils ont laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. On a l'Assasek à Dakar qui écrit « Pour contrôler et contenir la propagation de la pandémie, d'importants financements publics devront être effectués. Si les bailleurs de fonds ne soutiennent pas les pays pauvres dont les économies sont fortement touchées, nous serons tous confrontés aux retombées de la crise sanitaire et cela serait encore plus douloureux et beaucoup plus coûteux pour tout le monde. » Et Boulawayo Génome Bell à Kinshasa, il écrit « N'oubliez pas d'insister sur les crises qui sévissent dans certains pays comme la RDC. La faim tue plus que la pandémie. » En fait, donc la réaction de Boulawayo évoque un peu ce dont on parlait au début de l'émission, les autres aspects qu'il ne faudrait pas négliger dans tout cela, même si la pandémie aujourd'hui est une grande priorité, n'est-ce pas?
Alors, la pandémie a aussi quelque chose d'absolument terrible, c'est qu'on oublie très facilement les autres crises, les autres pandémies et même les épidémies qui sévissent depuis très longtemps. Et il faut rappeler ici qu'il y a des enjeux très importants comme le changement climatique, comme la gestion des crises, les conflits, le maintien de la paix. Et on ne peut oublier cela. Mais ce que la pandémie véritablement vient souligner, c'est qu'il faut régler ces problèmes dans leur globalité.
D'accord. Dr Tienko, vous voulez réagir à ce que nos téléspectateurs ont dit?
Oui, la pandémie amène non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. Cette pandémie est une double pandémie, une pandémie économique et une pandémie sanitaire. Et avec la pandémie économique, les entrées, les ressources vont être un peu plus bas. Mais ce que je peux préconiser pour l'Afrique, donnons-nous les structures nécessaires pour se développer et ne plus demander de l'aide. Parce que tant que vous demandez de l'aide, on ne vous donne pas ce qu'il faut pour vous être indépendant.
D'accord. Voilà. En tout cas, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités à New York, Jean-Victor Colo, porte-parole de trois anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies, et ici en Virginie, Dr Constantin Tienkou, médecin. Jean-Victor, il y a beaucoup de questions, beaucoup de discussions sur la question des vaccins. Comment s'assurer que ces vaccins, une fois homologués, seront accessibles même aux pays les plus pauvres?
Alors, la question est double et elle a été parfaitement bien posée par le secrétaire général à l'occasion de l'ouverture du débat général à l'Assemblée générale ici à New York. Il faut véritablement éviter le renfermement vers soi. Un pays ou un groupe de pays parfaitement et rapidement vacciné ne sera pas à l'abri si d'autres pays voisins ou lointains ne sont pas, eux, vaccinés. En d'autres termes, la communauté internationale, la famille des nations, doit arriver à une situation où un modus vivendi nous pousse tous à travailler dans le même sens. La deuxième partie de cette question, c'est véritablement sur les coûts et la dissémination, la distribution et l'application de ces vaccins. Il s'agit en réalité de s'assurer qu'on ne va pas arriver à une autre injustice, une autre grande division entre ceux qui auront et ceux qui ne pourront pas avoir. Or, la pandémie frappe et touche tout le monde. Le vaccin pourrait donc devenir, en vrai être, un nouveau point d'ancrage pour que la famille des nations montre qu'elle peut travailler ensemble. Car aucun pays ne pourra en autarcie véritablement gérer cette question tout seul, même si ce pays a tous les vaccins nécessaires. Car il faut encore penser aux mouvements migratoires, aux voyages, aux échanges et à toutes sortes de choses. Cette pandémie, ce virus peut muter. Il peut y avoir toutes sortes de considérations. Et le vaccin n'est pas en lui-même, et le docteur Tienkou nous le dira, une sorte de garantie à 100%. On ne sait pas combien de temps il peut être efficace. Il faut donc comprendre ici que c'est encore dans le multilatéralisme que nous pourrons gérer les fragilités que la pandémie est venue souligner par rapport à notre petite planète.
Oui, docteur Tienkou, il y a la question de l'accès au vaccin une fois que... qu'il est là. Et il y a aussi l'aspect lié à la confiance au vaccin. En Afrique, c'est aussi un problème. Comment gérer tout cela? Ce n'est pas un combat de gagner d'avance.
Je vous rappelle qu'en 1798, un Anglais appelé Edward Jenner a créé le premier vaccin. Et grâce à l'OMS, ces vaccins ont pu atteindre les endroits les plus lointains du monde. Et avec le programme élargi de vaccination que nous avons fait, beaucoup nous avons augmenté l'espérance de vie de peut-être 50 ans à 70 ans. Ça veut dire que nous pouvons dire que l'OMS a bien travaillé. Maintenant, avec le vaccin du coronavirus, et lorsqu'un vaccin sort, les premiers deux ans sont des années d'essais. Parce que pendant ces essais, nous aurons aussi des effets néfastes et on va mesurer l'efficacité par rapport à l'effet néfaste. Néanmoins, le vaccin sera la bienvenue et j'espère qu'elle sera gratuite pour tous les pays du tiers-monde parce qu'il y a des organismes comme Bill Gates qui peuvent mettre de l'argent pour qu'on nous les donne gratuitement. Quand elles sont très chères au début à cause de la recherche qui suit avant la production. Mais il y a des mécanismes pour qu'on fasse à ce qu'elles soient complètement gratuites. Mais le vaccin en elle-même n'est pas la fin du tunnel. Nous devons continuer les mesures de barrière, utiliser les masques, se laver les mains et tous les confinements doivent continuer.
Et ça peut aider même dans la lutte contre d'autres maladies.
Bien sûr, parce qu'il y a les cross-reactions. Le premier vaccin qui va même être mis en place, c'est le vaccin de Oxford, qui est en train d'être utilisé chez les chimpanzés. C'est un mélange du virus de la grippe qui est appelé adenovirus et le vaccin du Covid. Voilà le premier vaccin qui est un blindage du common cold et du Covid. Ce qu'on appelle le Oxford Chimpanzee Vaccine. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin qui est Moderna produit à Massachusetts, qui est le plus avancé à l'heure actuelle. C'est de ça qu'on parle aux États-Unis, qui pourra dans deux mois être avec l'Europe. Et Pfizer aussi est en avance très avancée avec les Allemands de BioNTech.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Une discussion très passionnante, très passionnée avec nos invités. Merci. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Je n'oublie pas nos télépartenaires sur le continent et l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.